Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Touche pas mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud.
Bonjour Florian.
Aujourd'hui, tu fais un point sur le coronavirus, donc les impacts économiques déjà perceptibles, des choses, des mouvements qui sembleraient-ils bizarres.
Oui, des mouvements de troupes normalement, d'ailleurs, ouais, américaines, en particulier en Europe, on va voir.
C'est assez flou dit comme ça, mais tu nous expliqueras tout en détail après. Et ce qui se passe dans les autres pays, donc voilà, tu vas faire un point global.
Oui, tout à fait. Alors du coup, on a eu tendance dernièrement à enregistrer ces émissions avec une semaine d'avance. Donc là, vu l'évolution de l'actualité, ça n'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est l'émission effectivement du 12 mars 2020, mais c'est effectivement enregistré le 12 mars avec les dernières nouvelles. Donc vous le savez, l'OMS a enfin déclaré cette épidémie qui touche plus de 110 pays une pandémie. Ça semble quand même logique. Enfin, dans tous les cas, on a vraiment l'impression qu'on est toujours derrière l'actualité, derrière ce qui se passe. En fait, on réagit toujours après coup, et c'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer à travers divers exemples sur cette affaire. Vous savez qu'en France, on parle beaucoup du stade 2, du stade 3. On nous dit au stade 3, alors il y aura déjà un certain nombre de règles qui vont être différentes, par exemple.
À quoi ça correspond les stades justement?
Eh ben, des stades de mais est-ce qu'on est sur le pied de guerre un petit peu, beaucoup passionnément? Par rapport à ce virus. Donc le stade 3, ben, par exemple, notamment, on pourra rappeler le personnel médical en retraite, par exemple, ou autre, pour aider. Mais en pratique, on nous dit des choses, par exemple, on nous dit que actuellement, on est dans une phase où on essaye de contenir le virus, donc on serait censé essayer de tester tous les cas suspects pour faire, si vous voulez, des quarantaines, des isolements ciblés. On a déjà tout à fait des exemples absolument qui donnent le contraire. Vous savez bien que dès maintenant, alors que c'est censé être au stade 3, on ne teste déjà plus tout le monde absolument. Vous avez plein de gens qui restent à la maison quand ils ont des symptômes légers.
C'est quoi le stade où sera vraiment la quarantaine ?
Eh bien justement, c'est difficile à définir. Vous avez déjà des témoignages comme par exemple un papa d'une jeune femme de 24 ans qui travaille dans un supermarché qui a absolument tous les symptômes du coronavirus. Ils sont allés aux urgences, ils ont appelé le SAMU, ils ont essayé par plein de méthodes possibles. Et en fait, à chaque fois, on leur a refusé de faire le test. Alors ils ont mis sur YouTube, je vous mettrai le lien, une conversation téléphonique assez dantesque avec quelqu'un du SAMU qui leur dit en gros, mais elle n'est pas dans une zone à risque, alors que maintenant, évidemment, c'est l'ensemble du territoire qui est zone à risque, mais elle n'a pas voyagé en Asie, elle n'a pas d'historique de voyage en Asie, alors qu'évidemment, on sait bien sûr que maintenant, il y a des communications tout à fait autres, puisque vous avez notre fameux ministre de la Culture qui est lui aussi déjà atteint, alors qu'il n'a pas du tout été en Asie. C'était en rapport avec évidemment une transmission sur le territoire. Alors, on a également 5 députés.
Savoir que voilà. Ces députés et tout ça, ils servent la main à beaucoup de personnes.
Tout à fait, mais donc c'est en France. Donc se voir répondre, elle n'a pas été en Chine, donc on ne la teste pas, c'est complètement ridicule. Quoi. Donc on est déjà dans ce stade-là. Donc quand je vois dans les journaux qu'on nous annonce qu'au stade 3, on ne pourra plus tester tout le monde parce qu'il y aura trop de cas en gros et que dans ce cas-là, on ne testera que les cas les plus sérieux, on en est déjà là. Vous avez le professeur Émile Muller d'un hôpital de Mulhouse, là, vous savez, qui est quand même une zone un peu un épicentre, on veut dire, de cas infectés dans le côté de, vous avez le Haut-Rhin, vous savez que vous avez l'Oise, commence à avoir des cas du côté d'Ajaccio avec fermeture d'école, etc. Il y a différents cluster, on peut dire, regroupement de cas actuellement en France, mais ça, c'est les choses qui sont identifiées. En tout cas, le docteur Eric Müller nous dit que depuis déjà mercredi, donc il y a une semaine, on ne teste plus du tout systématiquement tout le monde. On ne teste que, par ordre gouvernemental, on ne teste que les personnes qui sont les plus en détresse respiratoire ou voire carrément, dans un cas extrêmement, extrêmement grave. Donc ça veut dire que on n'est pas du tout dans une phase de containment, on dirait en anglais. On n'est pas du tout à un moment où on essaye de contenir le virus, puisqu'on ne teste pas tous les cas possibles. Mais peut-être qu'on ne le peut pas. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Mike Pompeo, donc du gouvernement, a annoncé qu'ils auraient pour cette semaine 1 million de kits de tests disponibles. C'est très très loin d'être le cas. Donc de toute façon, en fait, on est impuissant, quoi. De toute façon, clairement.
Pas en capacité de pouvoir tester.
Pas du tout. Donc on n'est pas en capacité non plus d'empêcher le virus de se propager. Soyons clairs. Et donc on donne des chiffres qui sont absolument faux. Rien que ceux-là sont déjà exponentiels, c'est clair. On a les mêmes courbes de progression de nombre de cas officiels réels testés qu'en Italie il y a quelque temps, il y a à peu près 10-15 jours de décalage. C'est la même chose là qui est en train de se produire aux États-Unis. On a un certain nombre, une courbe si tu veux, qui est tout à fait similaire. Mais il faut savoir que c'est que la partie émergée de l'iceberg. Je veux dire, on focalise sur ces chiffres-là, mais c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Et les hôpitaux se remplissent très très vite. On a déjà un décret en France pour déplafonner les heures supplémentaires que vont faire les soignants, ce qui paraît déjà complètement ahurissant, alors que vous vous souvenez quand même qu'on sort d'un mouvement très très dur au niveau des hôpitaux pour obtenir plus de crédits. On a des lits qui étaient fermés en masse parce qu'il n'y avait pas assez d'infirmières, il y avait des problèmes de personnel, de manque de personnel. Les soignants étaient déjà sur les dents ou sur les genoux et on leur demande théoriquement de faire encore plus d'heures supplémentaires dans le cadre de cette épidémie du coronavirus. Donc, il est clair que c'est sûr qu'on a, on prend le chemin de ce qui se passe en Italie. On a déjà, je vous mettrai les liens aussi, on a plusieurs témoignages, soit de médecins italiens, soit de responsables, par exemple, des services d'urgence, par exemple en Lombardie ou autre, qui expliquent qu'ils sont déjà complètement saturés, ils font des traitements d'urgence, même dans le couloir.
Alors, en Italie, ils sont carrément dépassés, là, il me semble que tout le pays est en
Alors, tout le pays est en quarantaine. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dépassés? Au niveau des hôpitaux, ils ont réussi encore en Lombardie à tenir le coup parce qu'ils expédiaient le trop-plein de leurs malades dans d'autres provinces qui étaient pas débordées, elles. Mais en pratique, ils ont peut-être du coup disséminé aussi, allez savoir, le virus. De toute façon, le virus, il a été disséminé aussi parce que les gens se déplaçaient, qu'on a malgré tout pris des mesures assez fortes, comme tu le cites là. Mais c'est toujours un peu... toujours trop tard, si on peut dire. C'est pareil en ce qui concerne la mise en quarantaine du Nord. Quand elle a été annoncée, vous avez des milliers de personnes qui ont fui très très vite avant que les choses ne soient concrétisées. Donc ils ont peut-être aussi disséminé ce genre de... enfin les germes un peu partout.
Après, il y a toujours des risques aussi.
Mais chez nous, si tu veux, on en est exactement dans le même point. C'est toujours très très timide. Si on passait au stade 3 et on nous annonce, on nous prépare, on nous dit ça va pas tarder, ça va pas tarder, ça va pas tarder. Ça va peut-être pas tarder après les municipales, allez savoir, puisque... Le but du jeu, c'est peut-être de faire passer les municipales. On pourrait dire, c'est pas la même gradation. D'accord. Que nous. Mais si tu veux, étant donné qu'ils ont mis le pays en quarantaine complète, avec peine de prison potentielle pour ceux qui romperaient la quarantaine, sachant que si en plus il y a des victimes, qu'on sort et qu'on est infecté, ça peut être plusieurs années de prison. Ne sont autorisés à sortir les gens que pour aller faire des courses de nourriture et pour.
Au moins stade 10, là.
Si tu veux. Course de nourriture et disons, travail de type absolument urgent. Donc, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir caractériser ça comme urgent, mis à part dans le domaine de la santé, ou alors chacun va trouver que son travail est urgent. En tout cas, les magasins sont fermés maintenant, sauf les magasins de nourriture et les magasins de... et les pharmacies.
Encore faut-il qu'ils soient
approvisionnés, oui. Bien sûr, tout à fait. Ça pose ce problème-là, et ça va se poser très très rapidement. Donc, pour le moment, on assiste à un respect de la quarantaine, mis à part quand même des émeutes dans les prisons en Italie, avec des détenus qui se sont vus interdire les visites et qui ont peur qu'il y ait des cas où, en fait, si eux, ils sont en quarantaine, où il y a des gens qui sont malades et qu'il n'y a aucune visite possible, ça ne se sache pas et qu'ils ne soient pas bien soignés et qu'on les laisse mourir comme ça.
Ouais,
et voilà. Alors du coup, vous avez même eu des évadés, vous avez eu des tanks dans au moins une ville vu dans la rue, si tu veux, dans au moins une ville en Italie pour essayer de récupérer les prisonniers évadés. Ça commence à être un petit peu chaotique, on va dire. Hein. Voilà. Mais c'est que le début, parce que là, pour le moment, les gens, ils ont quand même, pour beaucoup, pu faire des courses. Quand il y a commencé à y avoir cette quarantaine, elle a été appliquée progressivement. Donc, il y a des gens qui ont fait des courses, même si on conspue les gens qui font des courses en disant ce sont des vilains égoïstes. Malgré tout, au moins, c'est ceux qui peuvent se prévoir un peu. Alors, je dis pas qu'il faut dévaliser le magasin à soi tout seul, mais enfin, si les gens ne se préparent pas, ensuite, c'est catastrophique, parce que si les transports sont difficiles, les approvisionnements seront difficiles et la survie des gens à domicile sera difficile aussi. Et comme on le voit avec la Chine, il est difficile de sortir d'une quarantaine. Une fois que les gens ont eu suffisamment peur et ils restent chez eux, allez leur dire « mais non, ça y est, le danger est passé, sortez s'il vous plaît, c'est bon, c'est fini, retrouvez le travail parce que sinon l'économie s'effondre comme ce que la Chine est en train de faire », voilà, c'est pas évident. Je vous ai parlé peut-être déjà de ces bonus que Foxconn promet à ses employés pour les voir retourner au travail. Foxconn, c'est cette immense entreprise chinoise qui fabrique beaucoup d'éléments électroniques pour notamment les smartphones et autres. Et vous avez le bâton aussi après la carotte. Vous avez surtout les menaces d'arrestation si on ne retourne pas travailler en Chine.
Donc là, en Chine, c'est ils sont en train de mettre en place la fin de la quarantaine.
Oui. Voilà, ils orchestrent là encore les chiffres comme ils l'ont fait pour limiter les cas avant, mais là ouais. Ils orchestrent une chute progressive des cas officiels pour redonner confiance à la population pour qu'elle retourne au travail, quitte à demander, alors on a des articles croustillants sur le sujet, à demander à des patrons d'usines de faire tourner les machines à vide pour consommer de l'électricité, pour que les indicateurs de reprise puissent montrer que l'électricité étant consommée, les usines reprennent, etc. etc.
Alors, les chiffres donnés voilà. ont cessé d'augmenter.
Ah, ils sont en diminution même, tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire que les cas réels sont cela ? Il y a une perte de confiance énorme des Chinois vis-à-vis du gouvernement chinois, évidemment. Donc, est-ce que ça va suffire à les faire revenir au travail ? Il faut voir. En ce qui nous concerne, en tout cas, on voit très bien que c'est vraiment trop peu, trop tard à chaque fois. Ce que je voulais dire, c'est que... Alors peut-être que notre gouvernement choisira la méthode japonaise, c'est-à-dire la méthode on ne décide pas de quarantaine généralisée, on traitera les patients au fur et à mesure, on veut que les personnes avec des symptômes plus légers restent à leur maison et on ne s'occupera dans les hôpitaux pour ne pas surcharger le système que des cas les plus graves. Tout ça c'est bien, mais c'est bien dans le stade où on est actuellement en fait. Et le souci, si tu veux, c'est que très rapidement, comme ce qui s'est passé en Chine et comme qui commence à se passer en Italie, les hôpitaux sont débordés, même avec les cas graves seulement. Je vais vous donner quelques chiffres. Là, les chiffres d'aujourd'hui, c'est que on relatait à peu près 12 000 cas officiels testés en Italie. Je répète. La partie émergée de l'iceberg. Sur ces 12 000 cas testés, officiels, confirmés, il y a à peu près 5 800 personnes qui ont eu besoin d'être hospitalisées. Et avec 5 800 personnes, vous avez déjà une saturation du système. Ça vous donne une idée, d'accord ? Et c'est pas uniquement parce que c'est le système italien. Le nôtre, il est pas mieux, hein, effectivement. En ce qui concerne, je vous réfère à toutes les manifestations, les demandes qui ont été adressées à Madame Buzyn au cours des derniers mois. On est tout à fait dans des situations assez critiques, déjà sans épidémie chez nous. Et là, vous avez plus de 1 000 personnes qui ont eu besoin de soins intensifs. Sur ces 12 000 personnes, vous en avez à peu près 6,5% qui sont mortes. Vous en avez à peu près 8%, un peu plus de 8% qui se sont remises. Et vous en avez encore 85% qui sont encore des malades et dont on ne sait pas quel va être le résultat. Donc vous voyez qu'on est encore dans des chiffres tout à fait qui
on
peuvent
est
évoluer.
Encore dans l'interrogation.
Complètement.
8% de remise en forme, c'est très peu.
C'est très peu et 6% de morts, c'est déjà beaucoup, alors qu'il y en a encore 85% de malades et qu'on ne sait pas de quel côté, si tu veux, de la balance, les chiffres vont plomber. Mais en ce qui concerne évidemment la contagiosité du virus, on sait qu'elle est très importante. Je rappelle que ça n'est pas uniquement à travers les postillons qu'il est diffusé, mais aussi à travers les aérosols. C'est-à-dire que vous avez des mini-mini gouttelettes qui peuvent rester en suspension dans l'air. Et les épidémiologistes chinois viennent de montrer dans la province de Hubei qu'en fait, jusqu'à une demi-heure dans l'air, après qu'une personne contaminée ait pu par exemple tousser, dans un milieu confiné, par exemple dans un bus, eh bien, vous pouvez avoir encore du virus présent dans des gouttelettes aérosol, et donc qui pourrait être potentiellement respiré par des personnes qui viendraient après. Donc, cette notion de se tenir à 1 mètre ou à 3 mètres des autres, c'est totalement insuffisant, malheureusement. Et ça explique aussi cette croissance exponentielle des cas en Italie, malgré les mesures quand même fortes qu'ils ont prises, ça ne semble pas s'infléchir au niveau de la courbe. Donc voilà, vous avez peut-être effectivement, comme le disait l'OMS après sa visite en Chine, 80% des gens qui vont avoir des symptômes mineurs, mais qui vont ensuite se remettre. Mais si on se fie aux chiffres italiens, 5800 personnes hospitalisées sur 12 000 testées, ça veut dire que vous en avez 1 sur 2, là, pratiquement. En fait, c'était 46% qui ont été hospitalisés. Alors, évidemment, ça veut dire aussi
après, les tests ont été ciblés, peut-être aussi.
Voilà, les tests ont été faits sur des personnes qui déjà semblaient avoir des symptômes, c'est clair. Mais si, chez nous, comme c'est le cas pour cette jeune femme qui travaille au supermarché dont je vous parlais tout à l'heure, on ne teste même pas les gens qui ont l'air d'avoir des symptômes importants au niveau du coronavirus, alors qu'on dit, soi-disant, qu'on est dans une étape de confinement, de dépistage systématique des cas suspects, en attendant d'être dans une étape où il y en aura tellement qu'on ne pourra plus faire ça, en fait, on y est déjà. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc, il faut absolument l'anticiper. Ça veut dire que les hôpitaux vont être débordés chez nous très, très prochainement, tout comme ils le sont déjà en Italie. Et vous avez donc absolument besoin de vous préparer à cela. Ça n'est pas du tout une blague. Les chiffres sont évidemment sous-évalués, donc peuvent peut-être amener des gens à penser que tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien, c'est pour faire vendre, c'est pour faire peur, c'est pour faire n'importe quoi, pour faire détourner l'attention. Mais ce n'est pas que ça, malheureusement. Les chiffres sont entièrement sous-évalués. Donc, on a raison quand même de s'inquiéter par rapport à ça. Alors, il y a des choses bizarres qui se passent aussi quand même. Il faut comprendre qu'il y a sans doute beaucoup plus que ça à l'œuvre, et j'en parlerai dans une prochaine émission. En ce qui concerne, en tout cas, des choses bizarres, je vous livre en vrac déjà 2-3 éléments. Un élément, c'est le site de Wikipédia concernant l'article sur la grippe espagnole. Vous savez, grippe espagnole, début du XXe siècle, suite de la fragilisation peut-être de la population avec la Première Guerre mondiale, avec un nombre de morts qui est estimé entre 50 et 100 millions. Pardon, 100 millions de personnes. Un tiers de la population mondiale affectée, la population qui faisait environ 1 milliard 800 000 personnes à l'époque. Donc vous avez effectivement un gros taux de mortalité quand même. Et un taux infectieux quand même très important. Alors nous, on nous annonce plus que ça. Vous avez des épidémiologistes allemands, par exemple, cités par Angela Merkel, qui annoncent jusqu'à 70% de personnes contaminées potentiellement sur 2 ans en Allemagne. Vous avez un épidémiologiste de Harvard qui prédit la même chose aussi au niveau mondial, ouais. 40 à 70%. Ça paraîtrait même encore plus contagieux que la grippe espagnole de l'époque. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'article de Wikipédia a été altéré énormément au cours des 3 derniers mois, commençant par le mois de décembre, dès le mois de décembre, et que le 22 février dernier, on aurait, bizarrement, diminué le taux de mortalité à 2% seulement, alors qu'on était à 10 à 20% avant de taux de mortalité chez les personnes affectées. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça permet de dire que le coronavirus est plus dangereux que la grippe espagnole, mais à quoi ça sert à qui ça sert aussi. Bon. Alors, je vais vous dire aussi quelque chose que j'ai trouvé très incohérent, c'est que là, actuellement, il y a déploiement en Europe de 30 000 soldats américains pour un gigantesque exercice militaire, le plus grand, nous dit-on, depuis la guerre froide, qui vise à faire des grandes manœuvres avec armes, artillerie, tanks, etc., qui sont en train d'arriver par cargo en Europe, soi-disant pour simuler une défense contre une attaque russe. Alors, je vous ai déjà parlé peut-être rapidement de la Russie, mais là, je voudrais juste vous donner 2-3 éléments. La Chine et la Russie sont définies par les États-Unis depuis déjà bien longtemps, et en particulier dans un rapport écrit par un think tank très important de néoconservateurs au début des années 2000, qui a écrit, si tu veux, un projet pour le nouveau siècle américain. Je parle de gens importants, hein, comme Paul Wolfowitz, par exemple, qui est devenu le directeur de la Banque mondiale et qui était les conseillers de Bush avec d'autres à cette époque. On parle d'éliminer toute nation qui pourrait éventuellement être un obstacle à l'hégémonie américaine au niveau mondial. Et dans ce document aussi, donc ce rapport que je vous mettrai en lien, Il parlait éventuellement aussi de l'utilisation de, d'armes biologiques, de virus ethniques, comme étant une possibilité pour, pas cher d'ailleurs, et de façon discrète, sans qu'on puisse tracer l'origine de la chose, eh bien éliminer un adversaire important. Et là, on vient d'avoir le ministre de la Défense américaine qui a, sur une chaîne CNBC, indiqué que la Chine et la Russie étaient les principaux adversaires des États-Unis. Donc, c'est tout à fait naïf, et là, vous avez tout à fait honnête, et là, vous avez des grandes manœuvres contre la Russie. J'en cite simplement trois. Ce qui vient de se passer entre les escarmouches syriennes entre la Syrie, en Syrie, entre la Turquie et la Russie, qui ont été déjouées par la mise en place d'un plan de paix entre proposé par la Russie en ce qui concerne la Syrie et en accord avec la Turquie. Plan de paix contre lequel les États-Unis viennent de voter aux Nations Unies. Donc, ont mis leur veto. D'accord ? Alors, on a bien besoin d'un plan de paix en Syrie, pourtant. Et deuxièmement, vous avez effectivement une guerre pétrolière qui vient d'être mise en place par l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite très, très proche des États-Unis. Alors, je sais que ça peut heurter leur économie de gaz de schiste, mais ça peut aussi être un moyen d'essayer d'étrangler la Russie, dont le pétrole était une très grosse source de revenus. Et troisièmement, nous avons ces fameuses grandes manœuvres, alors que franchement, on a autre chose à faire en Europe actuellement, à tester d'autres choses et à essayer de déployer nos forces dans autre chose que des mini-simulations de guerre avec la Russie. Et surtout aussi, tout ça, des grands mouvements de population, des grandes concentrations de population non protégées. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Merci beaucoup, Maud.
À bientôt.